Quand le commerce frivole divertit par ses outils et que ça rigole dans l'opulence du mépris, quand dans la baraque on s'étend sur les divans, bien loin du cloaque où pullulent les survivants, dans l'imaginaire qui vit, je me sens tout réjoui, je rêve un monde qui me ravit. Il est beau, imaginons le profit.
À propos, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lecture de l'article « Sortilège de la culture ».
Rien de plus glissant ni de plus équivoque que la définition du mot « culture ». À la fondation du ministère du même nom, en 1959, il renvoyait aux œuvres, au patrimoine, aux créations de l'art et de l'esprit. Selon le Larousse, il désigne l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, des connaissances dans un domaine particulier ou l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation. Cette troisième acception est proche de celle de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La culture est un ensemble complexe qui inclut savoir, croyances, art, position morale, droit, coutumes et toute autre capacité et habitude acquis par un être humain en tant que membre d'une société. Ces différentes conceptions s'inscrivent dans une tension entre un usage du mot restreint aux œuvres d'art reconnues comme telles et une approche anthropologique plus large englobant les manières de penser et de faire des différents groupes, nations, ethnies, classes. Les principaux candidats à la prochaine élection présidentielle sont, merveille, à peu près tous d'accord sur deux points. La culture, c'est important, sinon central, et il faut en conserver les spécificités, du statut des intermittents à l'exception culturelle de son rôle dans le rayonnement du pays à la protection de la langue. Mais presque tous soulignent les limites actuelles de sa démocratisation, qui exige le développement de l'éducation artistique et culturelle à l'école, à l'exception de Madame Marine Le Pen pour le Front National, qui s'attache en revanche à promouvoir l'enseignement des métiers d'art, si exquisément patrimoniaux. Mais à quelle culture font-ils référence? À celle qui est comprise comme l'essence d'un groupe, voire de l'individu qui en fait partie, ou à ce qui peut s'appeler culture générale? Ces questions sémantiques ne sont pas sans importance politique. Quelle est l'extension du champ de la culture? Quel rôle, quelle fonction doit lui faire jouer les pouvoirs publics? De quelle espérance est-elle porteuse? À droite, la définition est simple et on peut se demander dans quelle mesure elle ne déploie pas celle de l'UNESCO jusqu'à ses conséquences potentielles. La culture est le socle de notre identité, de notre mode de vie, de notre histoire, ultime rempart contre la barbarie, permettant l'intégration des nouveaux arrivants. Elle contribue à l'attractivité du territoire et à son rayonnement, selon le programme de M. François Fillon. Au FN, si le mot n'apparaît pas, l'idée est la même. La culture serait avant tout un patrimoine qui fonde une identité, les valeurs et traditions de la civilisation française. À ce titre, la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel devront être inscrits dans la Constitution. Elle est en somme dépositaire et symbole de l'esprit national. Assurément, poser la culture comme l'âme du pays est lourd d'implicite et d'exclusion. Mais il n'est pas tout à fait certain que le diagnostic de M. Emmanuel Macron, pour reprendre son lexique, soit moins équivoque. Il estime que la culture est constituée par nos valeurs, notre langue, nos émotions partagées. Elle définit ce que nous sommes, construit un langage commun et permet de sortir des assignations à résidence que créent les origines sociales. Mais comment ce langage commun, qui ne peut que renvoyer à des connaissances, des repères collectifs, relevé d'un héritage de codes de valeurs, serait-il par lui-même libérateur? Comment articuler ce « comment » avec le désir que chaque jeune puisse accéder à la culture, quelle qu'elle soit, ou avec cette affirmation lancée lors d'un meeting à Lyon le 7 février, Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, elle est diverse. Le mystère restera entier. Quand, en revanche, M. Macron soutient que son projet est tout entier culturel, un projet d'émancipation, une réponse aux barrières invisibles que crée la société, colorant de rose cette dimension de son programme, il apparaît clairement que cette émancipation renvoie en réalité à la maîtrise de la culture dominante et relève davantage du plan de carrière que de l'acquisition d'une réflexion critique et d'un savoir ouvrant des horizons. La culture permettra de sauter les barrières pour monter dans l'échelle sociale si l'on ose ainsi mélanger les métaphores. En d'autres termes, la fameuse démocratisation culturelle, enfin accélérée par diverses mesures, dont l'éducation artistique à l'école, un pass culturel pour les jeunes, etc., donnera à chacun les moyens de réussir. On retrouve ici les éléments des programmes de M. Fillon ou de Mme Le Pen, développer les pratiques collectives musicales, étendre les horaires d'ouverture des équipements, soutenir les mécénats, etc. Pilier de notre identité, selon M. Fillon, ou pilier de notre fraternité, selon M. Macron, dans tous les cas, la culture est censée dissoudre les différences dans une bien belle union. Pour M. Benoît Hamon, la culture, émancipatrice et créatrice de liens sociaux, est essentielle à la République. Elle serait de surcroît intensément et intrinsèquement vertueuse puisqu'elle constitue une arme contre le fascisme sous toutes ses formes, ce qui ne peut que laisser songeur si on se rappelle les nombreux nazis et collaborateurs impeccablement cultivés. Lorsque le candidat socialiste associe étroitement culture et république, doit-on y entendre une variation sur la pensée de Jean Zay, nommé ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts en juin 1936 et initiateur d'une grande politique culturelle et éducative, selon qui la République repose avant tout sur le civisme et l'intelligence des citoyens, c'est-à-dire sur leur éducation intellectuelle et morale? Pas exactement. Parmi les objectifs de M. Hamon, celui de faire des droits culturels une réalité, qu'il s'agisse de l'accès aux œuvres ou de la reconnaissance de toutes les cultures, signe sa singularité. La déclaration de Fribourg sur les droits culturels postule que toute personne a le droit de choisir et devoir respecter son identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. De surcroît, nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre son gré. Ces droits inscrits dans la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République de 2015, impliquent une politique à la carte, ce que reprend M. Hamon. Ainsi, chaque lieu d'art devrait selon lui considérer les identités culturelles de ses publics existants ou potentiels. Mais ces identités, qui les nomme? S'agit-il par ailleurs d'identifier des pratiques comme caractéristiques d'une communauté, de susciter des œuvres convenant à ce qui pourrait alors s'apparenter à une clientèle? Quel sens donner alors au lien social que la culture devrait raffermir? Est-il certain qu'enfermer chacun dans ce qu'on imagine être sa communauté culturelle participe de l'émancipation? On en vient à se demander si l'usage du mot « culture » ne représente pas un passage obligé pour s'affirmer en fervent partisan de la démocratie, de la lutte contre les inégalités et de l'inusable émancipation. De façon saisissante, la fracture culturelle est rituellement dénoncée, y compris par M. Fillon, mais sans qu'elle soit le moins du monde reliée à une quelconque injustice sociale. Il semble bien d'ailleurs que les exclus de la culture auraient vocation à se reconnaître d'eux-mêmes, car ils ne sont guère désignés comme ouvriers, chômeurs, pauvres.
Concernant le problème des exclus de la culture, justement, il ne faut pas non plus oublier cette délicate mutation de l'univers culturel et où d'autres exclus, les génies injustement méconnus de la culture d'avant-garde, vont trouver les sésames pour y entrer par le jeu de la provocation et celui de l'originalité, tout cela couplé avec des mises en abîme qui permettront de produire des discours très souvent abscons, mais qui font sens. Et alors que nous entrions dans cette phase d'intégration du mouvement de la contre-culture dans la sphère institutionnelle, ceci en direction d'un art pluriel et populaire, d'autres aspects moins visibles pour le spectateur non avisé étaient à l'œuvre. Premièrement, dans cette culture engagée, de premiers glissements s'opèrent. Par exemple, le portrait classique à l'époque de l'artiste avant-gardiste plutôt Baba Cool, baignant dans le psychédélique et promouvant la libération sexuelle et l'herbe en tant que vecteur d'émancipation sociale, se trouvait progressivement concurrencé par cette nouvelle émergence plus agressivement provocatrice, située dans un univers plutôt nihiliste entre aventuriers et militaires, le crâne souvent rasé de près, tatoué et percé de part en part, et qui laissait entrevoir, derrière un nihilisme postulé, le projet d'un nouveau futur culturel plutôt sombre.
Ce mélange apparent des genres avait cependant l'avantage de voir toutes ces concurrences converger vers un objectif unique et commun, et qui était celui de la revendication à pouvoir vivre de son art, et plutôt deux fois qu'une, prioritairement hors du cadre institutionnel des subventions publiques, réputé lui corporatif, élitiste et conformiste. La réponse, elle ne s'est pas fait attendre. Sortant ainsi d'une institution publique pour plonger immédiatement dans l'autre, économique, une pléthore d'artistes d'avant-garde débarquait ainsi sur ce qu'on pouvait désormais appeler le marché, en tenant à l'unisson les bienfaits du mécénat philanthropique et du soutien des industries privées. Banquiers, hommes d'affaires industriels se sont donc rués sur cette aubaine publicitaire relativement peu chère, eu égard au coût des agences de publicité de l'époque passablement décomplexées en termes de budget. Et justement, l'avantage principal de cette culture d'avant-garde avait pour caractéristique assez générale de fonctionner plutôt sur un mode minimaliste, aussi bien en termes d'élaboration qu'en ceux de coût de réalisation, et se révélait donc d'une nature plutôt profitable pour qui s'engageait à soutenir ses productions. Les retombées en termes de prestige de plus garantissaient une bonne visibilité dans la vitrine culturelle, ce qui impliquait forcément une appréciation favorable de la part du grand public à l'égard de cette nouvelle culture des marques qui soutenait ainsi la case prestigieuse d'une nouvelle expression artistique audacieuse. À tel point d'ailleurs que le soutien public s'est assez rapidement retiré de la scène, si l'on ose dire, pour mettre les pleins feux sur l'initiative privée de l'art et ses désormais légendaires demandes de soutien aux donateurs privés, celles-ci principalement orientées sur la précision budgétaire bien plus que sur les objectifs dits socialement engagés et d'utilité publique qui se sont mis pourtant à revenir de façon régulière dans la dialectique courante de la contre-culture engagée. On retrouvait ainsi dans cette nouvelle configuration des arguments et priorités, la marque laissée par les capitaines d'industrie dans le sillage de cette mouvance engagée et contemporaine.
Et c'est ainsi, dans la foulée de cette foire d'empoigne des concurrences dans la mixité culturelle opérant pour une émancipation de l'art qu'on put s'installer, juste à la suite du nihilisme conceptuel, les adeptes de cet autre nihilisme commercial, lui, en la personne de ces nouveaux décideurs nommés au poste clé, les technocrates spécialisés dans la question culturelle. S'installant de façon progressive et presque inaperçue aux commandes, on s'est pourtant vite aperçu qu'on les retrouvait partout où il s'agissait de choisir et d'éliminer. Cette nouvelle classe infrastructurelle du management alternatif était subitement passée au statut de classe dominante, et pas moins pire que la précédente, mais bien au contraire marquée par un cynisme et une arrogance débordantes. Cette nouvelle marque de fabrique de la culture commercialisée allait très rapidement se révéler très rentable et devenir ce nouveau marché, auréolé du bienfait culturel et pourtant ramené à sa plus mercantile dimension dans une échelle de valeur profondément utilitariste et bien éloignée de la prétendue mission d'élévation spirituelle conçue pour tous par ces généreux artisans de l'amélioration de la condition humaine. Cette petite parenthèse au sujet des sortilèges de la culture refermée, revenons au texte d'Evelyne Pieyer et voyons ce que la nouvelle classe politico-économique nous déclare au sujet de son positionnement culturel.
Le programme de M. Jean-Luc Mélenchon paraît lui aussi ne pas reculer devant le cliché en postulant d'emblée que la culture est le moteur et le reflet de la libération individuelle et collective parce qu'elle nous permet de dépasser nos origines, nos limites, les conformismes, la place qu'on nous assigne. Quelle belle confiance dans des pouvoirs désillants naguère attribués à l'instruction et au développement d'un savoir critique. Par certains aspects, ce programme se rapproche de l'élan fondateur du ministère d'André Malraux. Car la culture renvoie ici au bien de l'humanité, au nombre desquels se placent les œuvres de l'esprit, les arts et le patrimoine naturel. Cela signifie qu'ils ont en commun à tous les citoyens et que chacun doit être en mesure de se les approprier grâce à l'action publique. De même, s'y déploie un intérêt très concret porté aux questions d'argent, décisives, de la puissance des multinationales à l'austérité européenne en passant par le mécénat pour en dénoncer notamment la dimension idéologique. C'est également là qu'il est, enfin, affectueusement question des artistes qui peuvent contribuer à rendre impossible une vision comptable de l'existence. Cette conviction assez fugacement exprimée n'empêche pas d'encourager la co-construction de la programmation culturelle avec les publics, ce qui rappelle un peu la préconisation de M. Hamon et d'associer des représentants des publics jusque dans la nomination de la direction et dans les orientations stratégiques des établissements. Démocratie quand tu nous tiens. On peut toutefois redouter d'ouvrir ainsi la porte au clientélisme et à l'audimat. De façon surprenante, ces programmes s'intéressent souvent à l'audiovisuel, à la presse ou au sport, mais aucun n'intègre la culture scientifique et pas davantage une réflexion sur l'éducation populaire qu'on ne saurait réduire à l'animation socioculturelle prônée notamment par les arts insoumis. En dépit des propositions précises et parfois pertinentes, l'ambition des candidats reste bien mesurée en ce qu'elle n'envisage jamais avec vigueur que la culture puisse contribuer à susciter le désir actif de changer le monde.
Eh bien, pour faire le lien avec l'article suivant, la rédaction vous propose encore la lecture d'un texte écrit par Olivier Pironi et paru également dans Le Monde diplomatique et qui, sous le titre « Le stéréotype comme nourriture de l'âme », propose une réflexion s'appuyant sur la pensée de Theodor Wiesengrund Adorno. Ce qui est dit donne une résonance particulière au fait qu'à la standardisation de la pensée par le patriotisme a succédé celui de la standardisation de la pensée par la loi du marché et où la diversité des formes n'est présente que pour occulter l'acceptation de l'unilatérale loi du marché en tant que fondement unique du mode de gouvernance sur l'ensemble de la planète. Il faut encore relever à ce sujet que le terme de gouvernance est désormais préféré à celui de gouvernement. Ce dernier est désormais frappé d'ostracisme pour sa connotation nationale et remplacé par gouvernance, résonnant, elle, des accents d'une société plus civile que politique, et pourtant enfermée dans l'unique périmètre dévolu aux dirigeants de l'économie mondialisée. Voici ce texte.
Theodor Wiesengrund Adorno, 1903-1969, philosophe, sociologue, musicologue et compositeur allemand, est un des chefs de file du courant de pensée connu depuis les années 1960 sous le nom d'École de Francfort. Elle naît en 1923 avec la fondation de l'Institut des Recherches Sociales, dont le but est de fournir une théorie critique de la société, d'inspiration marxiste et freudienne, en vue de l'émancipation du prolétariat. Dès les années 1940, l'essor des régimes totalitaires, l'échec du mouvement ouvrier dans les sociétés industrielles, le dévoiement de l'idéal socialiste sous l'égide de Staline, la transformation du capitalisme en monde totalement administré, l'avènement de la culture de masse et surtout la barbarie nazie conduisent le mouvement à abandonner tout projet révolutionnaire, ainsi que tout espoir dans la marche progressiste de l'histoire et à développer une critique radicale des aspects politiques, sociaux et culturels des sociétés bourgeoises. Devant l'autodestruction de la raison, qui, d'outils de savoir et de libération, conformément aux vœux des Lumières, s'est mué en instrument d'aliénation et de domination de l'homme par l'homme, Adorno s'attache à examiner le contexte contemporain d'une rationalité marchande propre au capitalisme, dans lequel l'industrie culturelle et la consommation de masse renforcent la passivité des individus et servent à les manipuler. La production industrielle de l'art et des biens culturels réduits à l'état de marchandise, corrélative au développement des moyens de communication de masse, confirme la victoire de la raison technologique sur la vérité, affirme-t-il dans La dialectique de la raison, écrit avec Max Horkheimer. Influencé notamment par les analyses de Walter Benjamin sur le statut de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, et fortement marqué par l'usage des médias et à des fins de propagande dans les systèmes totalitaires, Adorno montre que la culture de masse, qui ne nourrit les hommes que de stéréotypes, est un instrument de domination idéologique au service des intérêts de la classe possédante. alors qu'à l'origine l'art a une fonction subversive, en rupture avec l'ordre établi, elle annihilie tout sens critique et institue le conformisme comme norme. La standardisation des produits, l'homogénéisation des comportements, le nivellement des valeurs et l'appauvrissement de la pensée, inhérents à la culture médiatique, ne peuvent qu'entraîner l'aliénation des consciences et détruire irrémédiablement toute perspective de libération. L'esprit ne peut survivre lorsqu'il est défini comme un bien culturel et destiné à des fins de consommation.
Ainsi se termine ce troisième billet. Rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture de l'article « Fondation d'utilité publique, vraiment ?» Et c'est avec une pièce de Renaud Garcia-Fons tirée de Linéa del Sour que nous prenons congé. Thank you.